Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot, Jean-Philippe Marceau et aujourd'hui aussi mon épouse Catherine Gagnon, qui a déjà fait un épisode avec nous sur l'architecture. Mais aujourd'hui, j'avais envie de l'avoir avec nous pour parler de symbolisme homme-femme, puis surtout comment ça peut aider des gens concrètement aujourd'hui. On est chanceux parce que on a un couple où les deux, ça nous intéresse, là. J'ai pas mal d'amis autour du monde symbolique que, tu sais, les gars sont vraiment intéressés par le symbolisme puis leurs femmes veulent rien savoir, là. Donc, c'est pas nécessairement un dialogue qu'ils peuvent avoir, mais nous, depuis le début qu'on se connaît, on parle de ce genre de choses-là. En fait, tu sais, la première date que j'ai eue avec Catherine, c'est parce que j'ai envoyé une vidéo de Jonathan sur l'architecture. Il était intéressant à en parler après puis c'est comme ça que ça a fait boule de neige. Donc, dès le début, on a commencé à parler de ça puis ça faisait que, tu sais, ça nous a tout le temps accompagnés puis on voyait tout le temps concrètement, OK, c'est quoi des trucs très concrets, pratiques qu'on peut aller chercher du symbolisme qu'on va pas chercher ailleurs, puis qui peuvent nous aider dans vie de couple, vie de famille, mariage, etc. Ok, ça va être un épisode assez concret aujourd'hui.
Oui. Moi, je sais pas où qu'on s'en va. C'est tout a été une surprise, mais j'ai hâte de voir où tu nous amènes avec ça, Jean-Philippe.
Parce que, mettons un truc que j'aime pour cadrer là, c'est un avantage du symbolisme sur d'autres genres de cadres pour comprendre les relations homme-femme là, parce que c'est, je pense. Plein de monde s'en rend compte aujourd'hui qu'il y a des gros problèmes au niveau des relations hommes-femmes dans notre culture. Puis, un paquet de métriques, là, une des plus frappantes peut-être, c'est idéologiquement à quel point les hommes et les femmes divergent, là. Les gars deviennent de plus en plus conservateurs, mais moins dramatiquement que les femmes qui, elles, deviennent de plus en plus à gauche, surtout chez les plus jeunes générations. Puis ça fait un paquet de trucs comme il y a de moins en moins de couples, de moins en moins de familles. Puis même des trucs, un truc étonnant, j'avais vu, je ne me rappelle pas c'est dans quel pays, mais c'est rendu qu'il y a plus de jeunes hommes qui veulent avoir d'enfants que de jeunes femmes qui veulent avoir des enfants.
Incroyable. Ouais, ça, c'est incroyable, hein. Wow.
Il y a beaucoup de choses étonnantes qui se passent. Ouais. Puis, tu sais, Il y a déjà plein de chrétiens qui font des bons diagnostics avec différentes cordes là, qu'on connaît, puis certains dont on a étudié. Fait que j'ai plein d'amis thomistes, par exemple, qui vont parler de nature, qui vont parler de cause finale pour comprendre certaines choses de relation homme-femme. Mais je trouve que, mettons, si j'essaie d'utiliser ce langage-là avec des gens, tu sais, plus séculiers, souvent comme ça bloque un peu tout de suite, là, parce que les gens ont beaucoup de résistance à l'idée de nature, à l'idée de téléologie. Ou d'autres choses qu'on a étudiées, qu'on avait beaucoup aimé, c'était la théologie du corps de Jean-Paul II. Là, c'est plus de la phénoménologie, mais là, c'est un autre genre de langage théologique, philosophique assez abstrait que je pense que c'est bien pour des prêtres et des gens qui connaissent ça. Mais dire ça directement à des laïcs, c'est comme flou, puis c'est assez compliqué, c'est pas si facile à comprendre. Alors que je trouve le langage symbolique, là, ça va comme couper à travers plein de débats, puis rapidement expire aux gens comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi telle chose c'est bien, telle chose c'est pas bien, etc. Puis, mais concrètement, on a cette expérience-là parce qu'on donne les cours de préparation en mariage avec notre paroisse depuis quelques années. Puis, ça, je le vois, là, comme si je fais juste donner le cadre symbolique, parler à plusieurs niveaux de la réalité en même temps.
Ça rejoint les gens.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Les gens sont comme.
C'est très intuitif.
Les gens, ils trouvent souvent que je suis concret.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça, le symbolisme qui, c'est en effet, c'est très concret. Là. En fait, on pourrait dire que dans la pratique, la différence entre l'homme et la femme au niveau symbolique, elle est basée littéralement sur la raison pourquoi il y a des hommes et des femmes. Là. C'est-à-dire, tu sais, le symbolisme, il est basé au niveau pratique sur la reproduction. Là. Tu sais, fait qu'il y a comme un lien. C'est sûr qu'il y a des analogies qui sont cosmiques à ce niveau-là après, tu sais, par rapport à des organisations, par rapport à l'univers au complet, là, le ciel et la terre et tout. Mais ça descend jusqu'au point où on est capable de voir c'est quoi la raison pour laquelle il y a la différence des sexes. Puis là, il y a beaucoup de corrélats qui viennent avec ça. Puis c'est toujours difficile parce que les gens, ils n'ont pas tendance à penser en termes de symbolique, en termes de symbolisme fractal. Toujours tendance à aller vers l'absolu. T'sais. Fait que souvent, quand ils disent le symbolisme masculin, c'est ça, le symbolisme féminin, les gens, ils prennent tout pour eux. C'est-à-dire, c'est comme s'ils disent « je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'une femme ». Mais t'es pas juste un homme, t'es pas juste une femme, t'es plein de choses. T'es un être humain, t'es un employé, t'es un citoyen, t'es plein de trucs. Mais quand on parle du symbolisme masculin et féminin, à ce moment-là, on parle d'un aspect de l'humanité qui est réel puis qui se manifeste dans le réel aussi. Là. T'sais, fait que ça, c'est important avant qu'on commence à parler du symbolisme de masculin et féminin, de comprendre qu'on est tous des êtres humains, puis on a tous des choses en commun, les hommes et les femmes, on a quelque chose qui nous fait qu'on est des êtres humains créés à l'image de Dieu, mais après ça, on a des fonctions différentes par rapport à la différence, la fonction est par rapport à la différence qu'on a, là.
Ouais, c'est une des forces, là, pour cadrer la différence, je trouve que le symbolisme, c'est super bon pour parler de plusieurs niveaux de réalité en même temps, justement. Un truc que je m'étais mis dans mes notes, là, c'est pas que je trouve drôle que tu parles de ça, c'est le symbolisme, ça permet de parler du niveau biologique, psychologique, puis spirituel, puis même d'autres niveaux, mais comme ça permet d'utiliser tous ces niveaux-là, puis de ne pas essayer de les réduire l'un à l'autre. Parce que, comme tu dis, les gens ont tendance à absolutiser d'un bord ou de l'autre côté. Un truc que je vois souvent chez, mettons, des jeunes gars Red Pill, ce genre de trucs-là, ça va être de parler comme juste de biologie, puis comme d'essayer d'absolutiser ce niveau-là. Fait qu'ils vont dire des choses comme, je sais pas, biologiquement, les chasseurs-cueilleurs comme lesquels on évolué, ils ont plein de femmes, sont polygames, blablabla, fait que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Fait qu'il y a ce genre d'argument-là comme d'absolutisme biologique là, qui va être fait. Puis à l'inverse, des fois, il y a des gens qui vont juste essayer de nier complètement la biologie, là, qui vont dire que ben, comme, c'est toute déconstruction sociale, puis il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes, puis là, ça va mener à d'autres problèmes, ce genre de choses-là.
Oui, ça, puis les deux mènent à des problèmes similaires, là, c'est-à-dire on n'est pas des animaux, puis on n'est pas des anges. Tu sais, je veux dire, on est des êtres incarnés, puis la relation entre on a des âmes, puis des structures qui structurent notre corps, là, tu sais. Puis il faut que ça soit les deux ensemble.
Il y a encore des trucs à dire côté abstrait, mais peut-être j'ai envie de faire un truc plus concret, justement, là, pour commencer. On a parlé de reproduction, puis c'est sûr que c'est un aspect fondamental du symbolisme homme-femme, là, le fait que c'est la femme qui est le potentiel d'où la vie va émerger, puis l'homme vient donner le pattern, la semence d'en haut. Puis après ça, ben, ça va faire des choses auxquelles on s'attend du côté homme-femme. Puis ça, même juste parler ça peut donner un toucher parce que je me rappelle, toi, ça t'avait énervé un peu quand t'avais lu le livre de Mathieu, oui. Initialement.
Oui.
Qu'est-ce qui t'avait énervé?
C'est sûr qu'au début. c'est ça. Fait qu'au début, c'est ça qui est intéressant. C'est souvent, tu sais, l'homme est vu comme. Ben, c'est sûr, juste à la Genèse, c'est l'homme est vu associé avec le ciel, la femme, c'est la terre, c'est la multiplicité. Ensuite, ça va vers comme. La femme, c'est le temps, c'est la femme est associée au serpent. Puis là, c'est sûr que je pense que c'est peut-être un des trucs qui énerve les femmes le plus, qui sont pas dans la foi. Ils sont comme, ouais, mais ils arrêtent pas de blâmer les femmes, parce que c'est à cause de eux qu'il y a eu la chute, puis la femme est vue comme mauvaise. Fait que tu sais, je veux rien savoir de la religion. Donc, c'est sûr que ça vient chercher, surtout parce que, comme tu le dis souvent, Jonathan, c'est qu'on comprend pas vraiment c'est quoi le féminin, puis c'est quoi son rôle, parce qu'on l'a perdu. Fait que c'est sûr que, je veux dire, même moi, puis je pense plusieurs femmes, quand tu commences à leur parler de Mathieu ou du symbolisme, c'est sûr qu'ils vont arrêter là. Ils vont faire comme, la femme égale mauvais, puis l'homme égale bon, égale vient du ciel. Mais c'est ça, mais il y a toute une nuance dans le symbolisme qui est là. Ben, en fait, dans la vision chrétienne, là, si on veut le dire, c'est pas juste, c'est ça, la femme, c'est l'incarnation du féminin, puis l'homme, c'est l'incarnation du masculin. Il y a plein de choses à voir, comme. Parce que c'est ça qui m'a aidé beaucoup, c'était de voir que c'était fractal. Fait que, OK, peut-être que juste homme-femme, OK, la femme est peut-être soumise à son mari, en tout cas, pour plein de raisons. Mais ensuite, je veux dire, c'est sûr que si tu montes dans la hiérarchie, mais je veux dire, si t'es un premier ministre, si t'es une reine...
Il y a un autre aspect qui rentre en ligne de compte, là, 100%.
Exactement. C'est ça, par rapport à tes enfants, je veux dire, t'es masculin, parce que c'est toi qui les éduques, c'est toi qui... Puis de toute façon, je veux dire, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand t'arrives à la messe, il y a comme une espèce d'inversion, parce que... Moi, c'est Jean-Philippe qui m'a fait la remarque une fois, c'est que, tu sais, le prêtre devient quand même féminin, c'est lui qui reçoit tout le monde, c'est lui qui met la table, c'est lui qui va supplier Dieu de venir. Puis, tandis que, en fait, ce qui est drôle aussi, c'est parce que, tu sais, dans les églises du Québec où que tout le monde devient plus vieux, mais c'est sûr qu'il reste surtout, en fait, les femmes qui sont là, qui sont en train de se faire un peu servir par le prêtre. Fait que c'est comme une espèce d'inversion de rôle. Puis ça arrive, je veux dire, ça arrive quand même souvent. Hein, je veux dire, c'est pas statique, c'est ça qui est intéressant.
Oui. Oui, mais je pense que ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui est très important, mais c'est aussi très important d'être capable de voir que, en tout cas dans le christianisme, on peut pas voir Marie à part de voir Ève à part de Marie. T'sais, c'est vraiment les deux, ils sont comme un mystère qui est entremêlé. Puis t'sais, on voit que Marie, elle agit comme Ève, en fait, mais elle agit comme Ève, elle montre un peu la façon dont Ève pourrait, la façon dont Ève agit, comment que Ève pourrait restaurer, disons, la chute. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire, si tu regardes comment que Ève agit dans le jardin, elle tente Adam vers sa mort, mais Marie aussi fait ça. Marie, elle tente Jésus vers sa mort. Elle, elle, tu sais, dans le, au mariage de Cana, c'est exactement ça qu'elle fait. Elle lui pose une question, elle lui pose un problème, puis elle fait sortir pour qu'il agisse, puis elle sait que les deux savent qu'il va agir vers sa mort. Mais là, tout d'un coup, ça transforme la mort en sacrifice de soi et tout. Fait que ça, c'est super important d'être capable de voir les deux aspects, tu sais, de Ève et de Marie ensemble. Ça peut aider aussi à cadrer les choses. L'autre chose aussi qui est important, c'est de comprendre l'aspect du secret. Tu sais, souvent, j'en ai parlé, mais tu sais, c'est compliqué d'en parler, mais il y a un peu l'idée... on pourrait dire l'aspect féminin de Dieu, c'est comme le secret de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas manifesté. Fait qu'on n'en parle pas nécessairement. C'est un peu l'idée de la des fois, l'essence divine, elle est comme connectée avec la notion du féminin. Puis il y a différents jeux qui sont faits. Là, c'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas formaliser ça parce que c'est pas formel, tu sais. Comme dans la mystique allemande, il y a l'idée du ground, the ground of God, là, t'sais, le fond de Dieu, on pourrait dire, là, t'sais, l'endroit où Dieu par toutes ses qualités, que ça, c'est comme une sorte d'aspect féminin de la divinité. Mais c'est ça. Fait que c'est tout ça qu'il faut toujours prendre en ligne de compte quand on explore le mystère du symbolisme féminin, là.
Sur les hiérarchies aussi, une des forces, je pense, du langage symbolique, c'est de comprendre comment... OK, oui, mettons, au niveau biologique, il y a une relation assez claire, différente, qui va distinguer les hommes puis les femmes. Ça va avoir des conséquences après pratiques, là, comme quand Saint Paul va dire aux femmes de se soumettre à leurs époux, aux époux de se sacrifier pour leurs femmes. Mais tu as aussi des passages, mettons, où, rendu au niveau plus spirituel, ben il y a pas de différence entre les hommes puis les femmes dans le Christ Jésus.
Oui.
Où, même chose dans le Cantique des Cantiques, je me rappelle, c'est un truc qui m'avait surpris quand j'avais lu ça. Où, c'est un livre de relations hommes-femmes où il y a clairement un aspect érotique masculin-féminin comme clair, assez biologique. Mais de l'autre côté, des fois, ça parle aussi comme que les époux sont aussi frères et sœurs. Parce que au niveau spirituel, devant Dieu, on est quand même tous des frères et sœurs qui cheminent ensemble. T'sais, tu peux avoir des distinctions, des hiérarchies au niveau biologique assez claires qui vont devenir plus un truc d'égalité ou de fraternité rendu au niveau spirituel.
Oui, c'est pour ça que, tu sais, si on regarde le symbolisme de la Vierge, en tout cas dans l'Église orthodoxe, c'est pour ça qu'on dit, tu sais, que dans le fond, la Vierge, c'est la première humaine à être défiée. Et donc, c'est ça la surprise. C'est-à-dire, en fait, elle est notre modèle à tous. Parce que, tu sais, on ne peut pas devenir une incarnation par nature. Puis Marie, c'est celle que tous, on regarde comme étant notre modèle parce que elle a... Nous, on a accès à tout ce qu'elle a accès. T'sais, tandis qu'on n'a pas nécessairement accès à une incarnation du Logos préexistant. Même si on arrive à la stature du Christ, c'est comme si un peu de dire arriver à la stature du Christ, c'est s'approcher de la Vierge, en fait, dans l'exemple qu'elle nous donne. Fait que ça, c'est un aspect important. L'autre aspect, c'est que c'est intéressant parce que quand tu regardes les hiérarchies. Les hiérarchies visibles, on pourrait dire, c'est la hiérarchie dans le monde. Bien, la hiérarchie dans le monde, elle a un aspect qui est externe et donc elle va suivre en général la hiérarchie masculin-féminin. En général, les prêtres, les évêques et tout, c'est des hommes, etc. Mais après ça, quand on tombe dans, comme tu as dit tantôt, la hiérarchie spirituelle où on est tous un en Christ et où il n'y a ni homme ni femme, la façon dont Saint Paul parle de ça, bien là, tout d'un coup, tout change. Puis, tu sais, là, tout d'un coup, on a des saints qui deviennent... Tu sais, si par exemple, nous, dans l'Église orthodoxe, en fait, Sainte-Marie-Madeleine, tu sais, elle est vue comme égale aux apôtres. On a plusieurs, Sainte Nina, l'illuminatrice de Géorgie, on a plusieurs femmes qui on pourrait dire que dans le monde externe, il n'y avait pas de rôle officiel dans la hiérarchie de l'Église, mais au niveau caché, tout à coup... ils apparaissent comme les gars aux apôtres. Fait qu'il y a tout ça aussi qu'il faut toujours prendre en ligne de compte. Là. Puis en fait, il ne faut pas oublier que c'est ça le but de tous. Là. Tu sais, la hiérarchie qu'on voit dans le monde, elle est plus une occasion de chute là, qu'une occasion de gloire. Là. Être un prêtre, ça ne te donne absolument rien à part plus de danger de brûler en enfer. Là. Tu sais, Il y a une raison pour laquelle, quand on faisait les images de l'enfer au Moyen-Âge, on mettait toujours des prêtres, des évêques puis des rois en enfer. Là. Les paysans, ils vont pas en enfer, eux autres, en général. Parce que, tu sais, ils ont moins de tentations de tomber dans les péchés capitaux. Là.
Un truc vraiment intéressant, je pense, de la métaphysique chrétienne, que la distingue des autres systèmes métaphysiques, là, où, vu que tu as l'émergence et l'émanation en même temps, il y a une valeur à la matière qui fait que la matière peut devenir comme plus élevée que toutes les autres choses comme dans la création. Ou, ça devient plus clair si on contraste avec d'autres systèmes, là, mais mettons, si tu regardes la mythologie gréco-romaine, c'était vraiment un truc plus top-down. C'était de l'émanation où, à partir de l'un, il y a comme des dégradations de plus en plus jusqu'à la matière. Puis, au final, la matière, c'est quelque chose qui est juste comme une version moins bonne de ce qui est plus élevé dans le monde des formes. Puis, ben, ça fait comme au niveau concret, moral, ben, que les nages ne donnaient pas beaucoup de valeur aux femmes, entre autres.
Ouais. Puis, c'est intéressant, le christianisme, qui est super intéressant, c'est que parce qu'on est tous appelés à jouer un rôle féminin en rapport avec Dieu, toute l'idée de l'âme comme étant l'amoureuse de Dieu, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, il y a le texte mystérieux de Saint Paul, quand il dit qu'une femme est sauvée en ayant un enfant, c'est comme si Saint Paul, ce qu'il est en train de suggérer, c'est que les femmes sont plus propices au salut parce que c'est dans leur corps, c'est-à-dire leur corps lui-même doit devenir le véhicule pour une identité, doit donner naissance à quelque chose, puis être comme le réceptacle pour quelque chose d'autre. Puis qu'en fait, c'est comme si ça les rend plus propices au salut, tandis que les hommes, c'est comme c'est plus compliqué parce que la vie nous force pas à ça. On peut l'éviter vraiment beaucoup plus facilement, là, puis tomber dans nos illusions, puis notre orgueil et tout, tandis qu'une femme qui est enceinte, t'sais, l'orgueil s'en va. T'sais, tu peux pas accoucher d'un enfant puis garder ton orgueil, c'est juste impossible. Ton corps, ça prend le contrôle. Fait que tous ces éléments-là, je pense, sont toujours importants à se rappeler quand on parle de la relation. L'autre truc aussi qui est important, c'est super fascinant parce que comme tu parlais des red pill, des gars red pill, il y en a beaucoup ce genre de gars-là qui reviennent vers le christianisme. Puis c'est Father Josiah Trenum qui vraiment, il met l'emphase là-dessus. Il dit, quand les gens lisent le texte qui dit que la femme doit se soumettre à l'homme, c'est drôle qu'il manque la première partie qui est d'ailleurs beaucoup plus longue. La partie qui dit que les femmes doivent se soumettre à leur mari comme au Christ, mais il manque la partie qui dit que l'homme doit mourir pour sa femme, qu'il doit tout sacrifier, qu'il doit la présenter pure et devant le trône de Dieu. Là. C'est comme... c'est ça, c'est les deux, tu peux pas avoir juste un. Quand tu vois les hommes qui disent, oh, ils veulent soumettre leur femme, c'est comme... En tout cas, moi, c'est pas ça que je vois dans le texte. Ouais. Moi, ce que je vois dans le texte, c'est que tu dois te sacrifier pour elle, puis elle, oui, elle doit se soumettre à toi, mais tu peux pas t'attendre à un si tu fais pas l'autre. Là.
Mm-hmm. Mais c'est comme notre vue pour la hiérarchie aujourd'hui, là, comme on pense que les gens en haut ont tout le pouvoir, que le pape a tout le pouvoir, mais c'est comme censé être le plus grand serviteur. Là. Normalement, quand les choses vont bien, même chose pour les rois jadis, on a toujours les histoires des mauvais rois qui abusaient tout le monde, mais un bon roi, c'est censé se sacrifier pour son peuple. Puis on a comme oublié ça.
Un autre truc, oui, c'est la raison de l'existence du roi, c'est le peuple. Sinon quoi?
Un truc que je trouvais que tu expliquais bien quand même, quand on donne les cours de préparation au mariage, c'est comment...
La soumission, là?
Oui, oui.
Mais un autre truc que j'aime aussi, c'est peut-être que ça s'applique aussi aujourd'hui, mais comme, tu sais, soumission, ça vient de la racine, tu sais, surtout comme en anglais, submission, c'est comme sous la mission d'eux, là. Fait que c'est comme on partage la même mission. Puis quand, je veux dire, aujourd'hui, en plus, les femmes choisissent leur mari, là, personne n'est obligé de se marier aujourd'hui. C'est à toi de trouver le bonhomme à suivre. Là. Fait que je trouve qu'il y a quand même... Tu sais, ça enlève pas la responsabilité de la femme. Là. C'est pas comme, t'es soumise, puis tu dis pas un mot, puis tant pis pour toi. Là. T'auras ce qui t'arrive. C'est plutôt, t'auras ce qui t'arrive parce que c'est toi qui fais la décision. T'essaies de voir, OK, c'est quel homme qui vaut la peine de suivre. Comme, OK, je vais suivre lui parce que lui, il a l'air de m'amener vers le Christ, de m'amener vers Dieu, de m'amener vers... Le bon, là.
Oui, c'est-à-dire, on ne vit pas dans un monde... les chrétiens croient au consentement. Là. Vraiment, là, c'est-à-dire qu'on voit dans le geste de la Vierge tu sais, au moment de l'Annonciation, c'est vraiment la racine de la notion du consentement dans le christianisme. Tu sais, puis on le voit, en tout cas, en Occident, c'est pour ça qu'on peut avoir des gens qui elope, je sais pas qu'on dit en français, là, tu sais, parce que les deux mariés pouvaient se marier sans la permission de leurs parents, tu sais. C'est-à-dire, c'était le consentement entre les deux mariés qui faisait le mariage. Pas besoin, tu sais, c'est bien d'avoir tes parents là, mais c'est pas vrai que c'était nécessaire d'avoir la permission des parents. Puis, tu sais, un homme peut pas marier une femme sans qu'elle dise oui. Tandis que dans d'autres cultures, t'es pré-chrétienne, dans les cultures romaines ou scandinaves et tout, il n'y avait pas du tout l'idée que le consentement de la femme faisait partie de la communion du mariage. Ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment important. Ça fait dire que les femmes, ils doivent aussi exercer un discernement à trouver un homme qui est digne de leur relation, là.
Un autre aspect que tu disais que je trouvais bien, c'était le fait que, une fois que tu es enceinte et que tu as des enfants, tu le vois quand même là, quand ça va arriver. Là,
c'est ça, c'est là que tu le vois concrètement. C'est encore ça, c'est toujours la grossesse hein, qui te rachète. Mais c'est ça, c'est que rendu quand tu es enceinte et que tu as des enfants, tu peux pas comme penser à tout, tu peux pas tout décider. Il faut que tu dises, OK, genre, toi, tu es ma tête, fait comme décide pour moi parce que moi, je suis pas en mesure de faire ça en ce moment. C'est ça. C'est là que tu le vois, ultimement.
Oui, ça, mais tu le vois. Puis, tu sais, c'est ça que c'est là quand tu dis, quand tu vois comment c'est très organique, tu sais, parce que, à cause que, tu sais, la femme, elle produit la corporalité des enfants. Puis, tu sais, cette corporalité-là, elle n'est pas, tu sais, je dis, OK, je comprends que là, on vit dans un monde de l'artificiel, là, mais tu sais, dans la vraie, dans la réalité vraiment corporelle, tu sais, c'est pas quand l'enfant est né que ça finit. Tu sais, ça dure 2 ans, 3 ans. Où l'enfant il est collé à sa mère, tu sais, avec le lait maternel, mais ensuite à cause de ça, c'est à cause du lait maternel, l'enfant, c'est normal qu'il va voir sa mère comme le refuge, c'est juste normal. Il a passé des mois et des mois et des mois à être collé sur le corps de sa mère puis à boire son lait. Tu sais, fait que c'est tellement organique de réaliser que ça, c'est totalement naturel. Tu sais, à ce moment-là, je veux dire, l'homme, la seule chose qu'il peut faire, tu sais, c'est quoi qu'il peut faire, l'homme? Il peut, un, assurer la sécurité, tu sais, assurer la responsabilité matérielle de la famille, tu sais, pour que sa famille soit correcte, tu sais, assurer aussi, tu sais, la direction de base de où est-ce qu'on, tu sais, comment qu'on va vivre, comment qu'on va naviguer les choses de la vie, tu sais. C'est le symbolisme masculin et féminin, quand tu rentres vraiment dans la viande, là, c'est vraiment quelque chose qui est très organique. Puis la seule façon de l'éviter, c'est de créer des systèmes extrêmement complexes, étatiques, autour de cette réalité organique-là pour compenser. T'sais. Fait que la seule façon d'arriver à l'éviter, c'est d'avoir un état mère, là, un état providentiel, un état policier, toutes ces choses-là qui remplacent la relation naturelle entre l'homme et la femme. Fait que, c'est pour ça que des fois, les gens, ils sont offensés par ce symbolisme-là, mais c'est vraiment parce qu'il y a tellement d'intermédiaires maintenant qu'on n'arrive plus à le voir. On n'arrive plus à voir comment, en fait, c'est quelque chose qui est totalement naturel.
Puis aussi, j'aimerais revenir sur le fait que, comme tu avais dit, c'est comme, à un moment donné, c'est ça, l'homme n'a pas le choix de tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de diriger, essayer de prévoir ça serait où les écueils, puis d'éviter ça pour la famille. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que j'avais pensé à ça quand je regardais une image de la Sainte Famille. C'était pas une icône, il me semble, c'était vraiment comme une peinture, là. Je sais pas, début Renaissance, là. Puis c'était intéressant, c'était la Sainte Famille, mais t'avais comme la Vierge avec le Christ, c'est comme assis sur elle, comme d'habitude. Puis là, t'avais Joseph, tu sais, comme dans l'atelier, mais comme vraiment... comme en arrière, là, c'est comme le focus était vraiment pas sur lui. Fait que c'est comme encore une inversion intéressante, c'est que, tu sais, peut-être si tu lis de prime abord, je prends le livre de Matthieu ou peut-être, je sais pas, d'autres genres de symbolisme qu'on va proposer, tu sais, on pense que c'est l'homme, c'est le centre, puis c'est lui la structure, puis c'est lui comme qui est important. Mais d'un autre côté, quand on rentre dans le monde du foyer, puis des enfants, puis de la famille, ben le centre, c'est vraiment la mère puis l'enfant. Puis c'est comme si ensuite, c'était l'homme qui était comme sur la périphérie, parce que c'est lui qui protège la famille puis le foyer. Fait que c'est lui qui est à la périphérie, en fait. Puis c'est la femme puis l'enfant qui est au centre. Fait que, en tout cas, je trouvais que c'était quand même une espèce d'inversion intéressante. Si tu te prends de l'autre...
Oui, ça, il y a différents... Ça, il y a différents... comment je pourrais dire? Il y a différentes itérations du symbolisme masculin, parce que oui, en effet, le masculin, il est aussi... il y a un aspect du masculin qui est aussi à la périphérie, puis un aspect du masculin qui est au centre, puis la même chose pour les femmes. C'est-à-dire, le foyer comme tel, c'est un symbole féminin, en passant. Tu sais, la façon de le comprendre, c'est de comprendre les itérations du centre toujours comme un couple. T'sais, c'est pour ça que même au niveau de la hiérarchie, c'est vraiment la meilleure façon de saisir comment une hiérarchie fonctionne. C'est-à-dire que toutes les hiérarchies sont comme un genre de couple. T'sais, ils ont un roi puis une reine, puis chaque barreau sur l'échelle est une relation masculin-féminin. Puis si on saisit pas comme ça, à un moment donné, ça devient mélangeant. Puis les gens, ils imaginent toujours le symbolisme féminin en bas puis le symbolisme du ciel en haut. Puis à un moment donné, ça marche pas parce que, comme tu dis, ou plutôt, ça dit, mais une reine, c'est quoi? C'est une reine, c'est clairement pas... La reine n'est pas en dessous de toi, là. La reine, elle peut te dire quoi faire puis elle peut te faire mettre en prison puis elle peut te faire exécuter. Puis quand le roi, il est pas là, c'est la reine qui est régente. Fait que l'idée de que la, c'est plutôt de comprendre cette espèce de... Fait que tu peux comprendre ça, c'est-à-dire que quand la femme, elle est comme le siège, disons, du pouvoir masculin, puis là, quand l'homme, il n'est pas là, ben le siège, il est là à la place. Il est comme... C'est comme si l'incorporation de son pouvoir continue, même si lui, il part. Fait que c'est vraiment une sorte, c'est vraiment une façon de saisir l'idée de régence comme une sorte de continuité de ce couple-là d'autorité. Puis tu vois ça aussi dans la relation entre le Christ et sa mère. Tu vois que c'est ça. Elle est régente par rapport à lui. Elle est assise dans l'Église comme une autorité. Son autorité dépend du Christ, mais c'est une autorité qui est réelle, quand même, là, qui est réelle aussi. Là.
Je me rappelle, ça m'avait frappé quand on avait parlé de Marie puis du symbolisme de l'intercession, parce que, je pense, j'avais vraiment tendance à voir une hiérarchie assez stricte qui faisait que pour, mettons, demander à des saints d'intercéder pour toi, ça passerait naturellement comme... à travers les apôtres, puis peut-être à travers tous les apôtres jusqu'à Pierre, puis après ça, Pierre jusqu'à Jésus, mettons, tu t'attendrais peut-être à... C'est vraiment une pyramide là, complète, là.
Right.
À cause, tu sais, du principe qu'on a mentionné tantôt, que, OK, Marie, c'est comme la matière comme au total, là. Ça fait qu'on vit comme d'une certaine façon en dedans d'elle, comme quand Dieu crée là, initialement les premières eaux de la Genèse, puis les sépare en deux, mais il y a comme les eaux en haut, les eaux en bas, puis c'est comme si on... Ça, c'était comme toute Marie. Là, comme...
Oui, c'est ça.
Puis ça fait qu'après ça... T'sais, oui, c'est comme elle, la matière dont on vient, mais c'est aussi elle, la reine qui est en haut. Puis c'est un peu un genre de cheat code. Là, si tu peux demander à Marie d'intercéder pour toi, puis elle bypass comme tout le monde, puis elle va vraiment en Dieu. Puis explique qu'il y a plein de traditions. Tu sais, Marie qui fait rentrer plein de gens au paradis, puis des
choses comme ça. Oui, qui les cache sous son manteau.
Puis ça, c'est ça. Puis elle représente aussi, en général, la clémence du roi. Puis ça, c'est super important parce que, tu sais, aussi la mère, elle peut représenter la clémence du père. C'est-à-dire, tu sais, puis c'est intéressant parce que c'est là que tu vois l'importance de ces affaires-là parce que, tu sais, la clémence, c'est le retrait de l'autorité. C'est le retrait de l'autorité effective. Fait que, tu sais, par amour, des fois, il faut que l'action du père soit diminuée. Puis ça, c'est vraiment l'action féminine, tu sais. Puis c'est super beau parce que sans ça, ben ça marche pas. T'sais, sans ça, on a juste une machine. T'sais, sans ça, notre monde serait une machine. Tandis que le principe féminin, il est comme une sorte d'huile qui fait que la machine, elle accepte les imperfections, puis elle accepte les problèmes, puis elle fait que tout est comme bien... bien bien ensemble, avec un peu de lousse entre les choses. Puis sans ça, ça serait pas, ça marcherait pas. T'sais, c'est clair que ça marcherait pas. C'est pour ça que, t'sais, quand on pense au rôle du féminin, disons, t'sais, strictement au niveau reproduction, t'sais, tu vois que c'est ça, c'est comme la capacité de produire le corps, c'est-à-dire la capacité de produire la différence, la capacité de produire le particulier, tu sais. Puis ça, c'est la clémence, tu sais. C'est ça, la clémence. La clémence, c'est l'attention au particulier. C'est-à-dire, j'applique pas la règle, tu sais, je regarde le particulier, puis je considère le particulier, puis j'ajuste la loi ou, tu sais, la lumière à la forme particulière. Puis c'est pour ça que, tu sais, les femmes, ils jouaient pas juste ce rôle-là dans les familles, mais ils jouaient ce rôle-là dans la société. Puis ça, c'est un truc qu'on oublie souvent, c'est que, t'sais, dans les communautés, dans toutes les cultures du monde, les femmes, ils sont comme la graisse sociale. T'sais, ils sont constamment en train de regarder, de parler avec la voisine, de poser des questions. T'sais. Puis il y a comme une sorte de filet qui est là, qui est comme invisible, mais qui est vraiment toutes les relations des femmes entre elles dans le village. T'sais, puis genre les hommes qui se pognent, puis là les deux mères viennent se parler, les enfants qui chicanent, puis les deux mères qui viennent se parler puis qui arrangent ça pour que les enfants se réconcilient. T'sais, c'est vraiment, t'sais, puis on le voit parce que ce qui arrive, c'est que quand on enlève ça, ben ça donne ce que ça donne. Ça donne qu'on connaît pas nos voisins. T'sais, ça donne les autobus scolaires, puis les lunchs à l'école, puis t'sais, les enfants qui jouent pas dehors, puis ça donne tout ça, là.
À cause
ça donne tout ça, là, systématiquement, parce qu'on enlève cette espèce de filet de relation que les femmes... Fait que, t'sais, souvent, quand les gens disent... tellement ridicule. Les gens disent, ah, les femmes restent à la maison, puis ils font le ménage, ils font à manger. C'est l'affaire la plus ridicule du monde. Les femmes traditionnelles, ils restaient pas à la maison pour faire le ménage, puis faire à manger. Les femmes traditionnelles, ils étaient carrément le réseau secret de toute la communauté qui faisait que ça pouvait se maintenir. Ma grand-mère, c'est clair que elle était dans les filles d'Isabelle, elle était dans tous les comités, elle était dans tous les trucs du village, impliquée partout, les trucs des les comment on appelle ça, les fermières, les
clubs, ouais.
tout ça, tu sais, je veux dire, ça, c'était notre réseau, ça, c'était notre filet, dans le fond, tu sais. Puis là, on a dit aux femmes, on les a comme truquées en leur disant, la seule valeur, c'est ta capacité de produire de l'argent, c'est ça ta valeur. Fait qu'à moins que tu produises de l'argent, là, à moins que tu produises des biens économiques, on t'a volé quelque chose. On t'a comme volé ta place dans le monde. C'est vraiment dommage parce que, tu sais, je veux dire, au lieu maintenant d'être dans leur famille, dans leur communauté, au service de leur famille, au service de leur communauté, maintenant, ils ont des boss. Puis là, ils sont au service de leur boss. Puis ils reçoivent un chèque.
C'est
pas super.
Dans le Feminism Against Progress, Mary Harrington explique ça bien, je trouve, comment ça s'est brisé avec la révolution industrielle. Parce que avant ça, comme tu disais, les femmes étaient impliquées dans plein de choses, mais les femmes avaient aussi comme une fonction économique comme essentielle. Là, ouais, c'est ça. Ben, c'était comme toutes les choses, en fond, que tu peux faire avec des enfants, ben, c'était les femmes qui le faisaient. Fait que tout ce qui était comme l'alimentation, les textiles, c'était comme toutes des choses que les femmes faisaient. Souvent, ils faisaient ça ensemble avec d'autres mamans puis d'autres enfants. Une fois que l'industrialisation est arrivée, puis c'était possible de faire ce genre de travaux-là à l'usine, il a commencé à avoir un split, là, comme dans le féminisme. OK, ben, soit qu'on va travailler à l'usine, puis on abandonne comme nos familles, soit que, ben, on reste avec nos familles, puis on n'a plus de fonction économique claire. Puis là, il y a comme tout ce combat-là qui est comme resté. Puis ça faisait aussi qu'à l'époque, ben, les femmes avaient beaucoup de pouvoir, comme qui était évident pour tout le monde, je pense. Là. Il y avait tout ce réseau social-là qui était fort, puis tout le monde sentait, ben, le rôle du féminin était comme intuitif, je pense, pour les gens. Là, les femmes faisaient comme toutes les choses qui étaient physiquement comme nécessaires pour que les gens comme prospèrent au niveau comme biologique. Il faut manger, puis s'habiller, puis s'occuper des enfants. Là, c'était comme évident le rôle, disons, matériel que les femmes jouaient. Puis aussi au niveau du tissu social, comme tu mentionnais, puis le pouvoir social que ça avait aussi. C'était comme évident pour tout le monde. Mais là, aujourd'hui, on a comme brisé toutes ces choses-là. Puis il faut être très conscient, comme symboliquement au courant de ce qui se passe, je pense, là, pour savoir, OK, c'est quoi le rôle des femmes aujourd'hui, c'est quoi le rôle des hommes aussi, comment on agit dans ce monde-là. Puis ça, je suis pas du tout surpris qu'il y ait plein de gens qui soient pas capables de naviguer ça aujourd'hui parce que, ben justement, okay, quel genre de travaux les femmes font aujourd'hui, c'est pas si clair. Avec, j'ai entendu par exemple qu'avec le travail à la maison qui revient, là, il y a comme des femmes qui utilisent ça quand même. C'est plus facile d'avoir une famille puis travailler, mettons, à temps partiel chez toi, faire des genres de contrats, des trucs à ton temps. C'est plus facile de faire ça un petit peu. Mais le côté, par exemple, d'influence sociale que les femmes avaient, ça, c'est pas facile de voir comment on va réussir à aller rechercher quelque chose comme ça. Là. Même un des trucs que je pense qu'il se passe, c'est beaucoup de femmes, mettons, qui sont pas sûres qu'ils vont avoir des enfants aujourd'hui, parce que souvent, aujourd'hui, mettons, être une femme qui s'occupe des enfants, ça veut dire que t'es comme...
T'es tout seul. Ouais,
c'est ça.
Ben oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que, tu sais, veux pas le... En tout cas, nous, c'est sûr que, Québec, ça devient difficile, mais tu sais, l'école maison, c'était ça, pour nous, c'était ça la solution. C'est-à-dire, tu sais, l'école maison, c'est pas dire que t'es tout seul à la maison qui fait l'école. Ça veut dire que là, tout d'un coup, on avait carrément ça encore. On avait un réseau de femmes qui éduquaient les enfants. Les pères sont impliqués, mais en général, c'est surtout les mères qui étaient impliquées. Puis là, ils se rencontrent 2-3 fois par semaine, ils s'appellent, ils font des rencontres avec les enfants. Puis ça recrée un peu cette espèce de communauté de base. Puis là, ce qui arrivait, tu sais, c'est qu'à un moment donné, bien, nos amis deviennent les parents des enfants maison. Fait que là, on les invite les gens chez nous, les familles, les couples à la maison. Moi, je deviens ami avec les pères. Ça devient comme juste naturel où là, tout d'un coup, toutes les choses deviennent interconnectées, encore une fois. C'est sûr que dans notre cas, ce qui est dommage, c'est que quand l'école finit, bien là, ces relations-là, ils ont pas tendance à nécessairement rester parce que les distances et tout, là, tu sais, c'est pas comme avant où c'est tout dans ton village. Moi, ce que je vois, mon épouse à moi, tu sais, ce qui est incroyable qu'elle fait là, depuis quelques années que les enfants sont plus vieux, c'est que, tu sais, être juste en contact avec les gens autour de nous, tu sais. Puis, tu sais, puis même en tant que chrétienne, même si les gens autour d'elle ne sont pas chrétiens, ce qu'elle a réalisé, c'est que si elle demande, tu sais, elle voit que les gens autour de nous, ils ont des difficultés ou, tu sais, elle voit qu'il y a des inquiétudes dans leurs yeux. Elle leur dit, est-ce que je peux prier pour toi? Puis en général, ils disent oui. Parce qu'ils sentent, même s'ils ne croient pas, ils sentent l'affection, tu sais. Ils sentent l'attention, puis ils apprécient. Puis ça crée des ponts, tu sais, qui sont réels. Là. Puis là, on voit les ponts qui se retissent un petit peu. C'est pas beaucoup, mais c'est plus que. Donc, c'est mieux que rien. Moi, je veux entendre une autre voix. C'est-à-dire, ouais. Qu'est-ce que tu suggères aux hommes et aux femmes, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes qui se sentent un peu perdus, là, tu sais, ils ne savent pas trop, ils ne savent pas comment faire pour trouver quelqu'un ou comment être un bon conjoint. Fait que, vu que vous, j'aimerais ça entendre.
La réponse, deux points, non. Mais
pas la réponse, mais disons des conseils pour. Parce que, en plus, vous donnez des cours de préparation au mariage.
Concrètement, on voulait que ce soit concret. Je ne sais pas à quel point c'est concret jusqu'à date, notre affaire, mais c'est sûr que dans le cas, mon cas spécifique, là, c'est mettre Dieu d'abord. Je pense que c'est carrément... l'Église, c'est une super bel endroit où rencontrer du monde. Là.
Ouais.
Mais c'est ça, je pense que c'est, honnêtement, avec la foi, si tu crois vraiment... Quand tu crois vraiment que Dieu est là pour ton bien, genre il va t'aider à rencontrer quelqu'un, mais il faut vraiment que tu le mettes d'abord, là, comme dit Jordan, comme tu dis, si t'es comme convaincu qu'il faut que tu suives Dieu, mais je suis sûre que quelqu'un va venir te rejoindre là-dessus, sur cette voie-là. Puis justement, ça vient comme simplifier les affaires, parce que là, tu cours après Dieu, puis tu cours après Dieu avec ton époux ou ton épouse, donc... je trouve que ça élimine plein d'autres soucis. Là. C'est comme le but, c'est pas nécessairement la vie confortable ou le char de l'année ou le voyage. Parce qu'après, tout ça, ça peut tellement générer tellement de problèmes. Quand tu vas après Dieu, ça simplifie tout. Je sais que ça fait peur parce que souvent, je pense que les gens qui écoutent ce genre de podcast-là, c'est ça, ils se disent « Ouais, mais c'est juste moi qui cours après Dieu, là, il va y avoir personne d'autre. » Mais je pense que c'est aussi juste de te lancer. C'est ça, c'est la foi, là. Un petit peu, même dans les relations, là, tu sais, tu te lances, là. Tu te dis « OK, Seigneur, je te donne carte blanche, puis c'est toi qui vas pourvoir. » En tout cas, moi, c'est ma version.
Mais je pense qu'il y a aussi... C'est drôle parce que quand on donne une cause de préparation, je trouve que ça ressemble un peu à ça. Comme, souvent, tu as comme la solution finale, comme ultime. Là, je pense que c'est ça, c'est de faire confiance à Dieu. Puis après, souvent, ce que je fais, c'est que je vais comme donner les étapes intermédiaires. Là. Mais je pense, concrètement, un truc, puis on a souvent parlé de ce genre de choses-là, c'est vraiment bon de savoir, OK, mettons, au niveau biologique, puis psychologique, puis spirituel, c'est comment tu fais pour trouver quelqu'un. Parce que, puis comment pas t'arrêter, disons, au niveau le plus bas? Fait que, je sais pas, un truc drôle, là. Par exemple, quand on, la première fois que tu m'avais vu, j'étais genre en short et en t-shirt comme ça, là. C'était, ça. C'était l'été, là. C'était une activité comme avec la paroisse. Puis j'étais comme bien habillé quand j'étais au travail, mais là, j'allais soir là-bas, je voulais être relax, je me changeais. Puis là, vu que j'étais en short et en t-shirt, Catherine ne voyait comme pas. C'est pas comme un candidat.
Non, non, c'était comme pas sur mon radar.
Ça peut pas être un candidat romantique parce que, tu sais, il est pas capable de se conformer. Puis
blablabla. À Gougoun, là, que c'est quoi.
Ouais, vraiment, il était en Gougoun.
Fait tu sais. Fait que, c'est, je comptais juste pas. Puis après, c'est juste une fois que tu m'as vu comme à la ligne, en confession, bien habillé, genre là, OK, ben peut-être. C'est un peu plus, un peu plus un candidat, mais c'est comme vraiment utile de savoir, OK, c'est quoi le baseline, genre biologique d'attirance de quelqu'un. Tu sais, tu veux pas t'arrêter
c'est
là.
Vrai, c'est
je voudrais pas, mettons, que. Je voudrais pas, mettons, penser que Catherine est vraiment attirée par moi à cause de, je sais pas, parce que je m'habille bien, parce que j'ai un bon salaire. C'est juste des trucs de base biologiques qui attirent les femmes.
C'est quand même comme le bloc de base, puis après, tu rajoutes les trucs par-dessus.
Ouais, c'est ça. Puis là, je sais que c'est plus ça va, puis plus on a, disons, une attirance qui est pure puis spirituelle. Puis, tu sais, avec les années, ça aide. J'ai hâte qu'on soit des petits vieux de 80 ans, tu sais, qu'on. Comme, plus rien comme pour prendre soin l'un de l'autre puis pour se plaire physiquement, mais quand même être amoureux pour des raisons plus spirituelles, plus élevées. Puis tu sais, inversement, c'est normal pour un gars, mettons, d'être très physiquement attiré par son épouse, mais faut pas que tu restes là. T'sais, t'es censé développer des attirances de plus en plus psychologiques puis spirituelles. Fait que c'est vraiment, je trouve le symbolisme, c'est super pour avoir toutes ces choses-là en tête en même temps. Là, okay. Mettons, le niveau biologique, c'est comme à partir de là qu'on travaille. Tu sais, la biologie, c'est comme la base pour la psychologie, après ça, c'est la base pour le spirituel aussi. Fait qu'on est censé traverser tous ces niveaux-là. Fait que, ultimement, c'est vrai ce que tu dis. Je pense que, si on sait qu'on est tous orientés vers la même place, tous orientés vers Dieu, aimer de plus en plus Dieu, puis s'aimer de plus en plus l'un l'autre pour des raisons spirituelles. Mais il n'y a rien qui nous empêche de construire sur la biologie, puis de le comprendre, puis de faire comme cadrer tous ces niveaux-là en même temps.
Oui, mais je pense que ça, c'est important aussi pour les gens de comprendre, parce que tu sais, il y a tellement de mensonges qu'on nous a dit. Dans le monde moderne, là, le genre de le mensonge Viagra, là, l'espèce d'idée de que le but d'une relation, c'est de rester jeune puis de rester actif jusque dans les années, jusque dans les 80. C'est comme, non, vous allez mourir, là, on va mourir. Il faut voir la mort comme un don aussi. T'sais. C'est-à-dire que la mort, c'est un don pour se détacher de nos désirs. Fait que c'est bien de tranquillement aller, comme tu dis, dans notre relation pour développer un amour plus profond pour que quand nos corps ils sont sans conséquence, on est content d'être avec la personne qu'on est. Parce que sinon, si on met toute l'emphase sur l'aspect extérieur, sur l'attraction physique, sur la beauté externe, bien, je dis, ça va s'en aller. Là. On va tous finir dans les couches, on va tous finir vieux. Là. C'est correct, ça fait partie du processus. Fait que c'est intéressant parce que c'est là que ça montre aussi l'importance du sacrifice à la barre. Parce que si tu apprends aussi à te sacrifier pour l'autre, ben c'est quelque chose aussi qui va grandir en toi et qui va faire que tu vas être capable aussi de faire les transitions. Tu ne vas pas être le... Tu vas pas être le pauvre type à 60 ans là, qui laisse sa femme puis qui s'achète une voiture de sport. Pourquoi? Pour faire quoi? Juste pour être plus malheureux après. Là. C'est vraiment l'erreur du monde moderne.
Oui, je pense. T'as ça quelque chose?
Non, vas-y, vas-y.
Mais ça, une des choses dont on parle dans les cours de préparation au mariage, que je reviens tout le temps avec ça, puis j'ai tout le temps ça dans la tête aussi, là, c'est un schéma des âges de la vie. Là, ça vient de. Il y a plein de gens qui ont dit des choses comme ça, mais lui qu'on utilise, c'est d'un prêtre italo-allemand, Romano Guardini. Il parle du fait que, quand, mettons que tu as un enfant, tu veux juste apprendre à comme t'occuper de toi-même progressivement jusqu'à temps que tu arrives à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Puis après, tu apprends à t'occuper d'autres personnes. Dans un mariage, tu apprends à t'occuper vraiment plus comme d'une personne profondément. Tu apprends à t'occuper des enfants, les faire grandir. Puis après ça, quand les enfants sont rendus plus vieux, puis là, ils ont moins besoin de toi, bien, comme couple, tu es rendu que tu as développé beaucoup de compétences pour aider d'autres personnes, porter des fruits à l'échelle de ta communauté. Puis naturellement, ça devrait devenir ça, comme, tu sais, que tu fais de plus en plus. Là, tu ne devrais pas essayer de vouloir être toujours un adolescent comme le mythe du Viagra ou de la voiture ou ce genre de choses-là. Tu devrais être capable de monter de niveau. Puis ultimement, quand on devient vieux, on est tous des moines. On ne peut rien faire d'autre. Là. Tu peux juste prier à un moment donné quand tu es rendu. Fait qu'il faut tu sois comme préparé. Il faut que tu aies appris à porter des fruits de façon plus spirituelle, puis à aimer les choses plus spirituelles pour que quand tu vas à Dieu, tu vas prier. Puis là, ton époux ou ton épouse, vous allez être des moines ensemble à la fin. Puis si tu t'es bien préparé à ça, ça peut être une très belle époque de ta vie, très fructueuse, où t'aides beaucoup de gens. Puis aujourd'hui, comme tu dis, ben, les gens comme voient pas bien ça. Mais si on est orienté vers Dieu, puis on le sait là, que c'est ça qui se passe, on sait qu'on est comme des frères et sœurs qui cheminent vers ça ensemble. Puis au niveau biologique, on est des hommes, des femmes, où il y a des différences très évidentes, mais on peut quand même aller dans la même direction vers Dieu ultimement.
Mm-hmm, 100%.
C'est génial, ça. Je pense que c'était une bonne façon de terminer la conversation.
C'est concret comme elle-même.
Un beau speech de finale.
Super.
Parfait. Bon, ben, allons-y comme ça. Merci tout le monde d'avoir été
là. Catherine, merci de participer. C'était vraiment le fun.
C'était vraiment plaisir. J'aime vous écouter parler.
Super. Ben, à la prochaine, tout le monde.
Bye. Bye.